Musique, Frédéric Huttmann.
Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Raphaël Merlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr le violoncelliste du Quatuor Ébène et si je vous reçois c'est à l'occasion de la parution, le tour du monde en 16 quatuors, 7 CD, l'intégrale des quatuors de Beethoven au sein du Quatuor Ébène. Donc vous êtes bien sûr aux côtés de vos complices Pierre Colombet, Gabriel Magadur et Marie Chilem, respectivement les deux violonistes, l'altiste et vous donc le violoncelliste, un coffret qui vient de paraître pour le label Warner, enregistré de mai 2019 à janvier 2020, donc sur les 5 continents. Raphaël Merlin, qu'est-ce qui est... Alors l'idée, vous en parlez un peu dans le 10, c'est venu en 2014, mais c'est une aventure incroyable.
C'est effectivement un projet assez ambitieux qu'on a élaboré strate par strate, c'est-à-dire c'est comme une sorte de domino. Le premier domino qui est tombé, c'est l'invitation par le Carnegie Hall, donc en 2014 à l'époque. Ils nous ont invités pour venir en 2020, pour les 250 ans de Beethoven, jouer le cycle complet à New York, au Carnegie Hall. Et c'était une invitation pour nous tellement... une sorte de consécration pour un jeune quatuor, en tout cas quelque chose impossible à refuser, mais surtout à prendre très au sérieux. On a beaucoup réfléchi. Évidemment, on n'a pas dit oui tout de suite parce qu'on voulait quand même être certain d'être à la hauteur de ça, d'avoir les moyens de réunir le temps. Il faut beaucoup de temps pour préparer l'intégrale Beethoven en concert.
Excusez-moi de vous interrompre. À ce moment-là, vous aviez l'intégrale, vous les aviez tous joués,
ces quatuors ? Non, pas du tout, du tout, pas du tout. À l'époque, on avait, je pense, 5 ou 6 quatuors de Beethoven au répertoire et on n'était à l'époque pas encore capable de les jouer, par exemple, dans le même week-end. Même en 3 concerts, on n'aurait pas pu faire ça. C'est vraiment de la musique particulièrement exigeante et qui demande beaucoup, beaucoup de maturation et de réflexion, mais aussi tout simplement un travail d'hygiène. J'ai presque envie de faire une analogie avec les sportifs. Enfin, il y a quelque chose qui demande un vrai conditionnement physique. Bon, peut-être pas plus que pour Mendelssohn, mais il y a quand même chez Beethoven cette acuité extrême des parties internes, ce jeu de contrepoint, cette construction. Bon, c'est une musique qui est très, très, très exigeante et qui vous le rend bien, d'ailleurs. Toujours est-il que donc 2014, on se met à réfléchir, on finit par donner évidemment la réponse à Carnegie. Oui, on va faire, on accepte cette invitation pour les 20 ans du Quatuor Ébène. On va célébrer les 250 de Beethoven. C'est logique. Mais dès lors qu'on se lance là-dedans, on se rend bien compte que pour le faire sérieusement, dès 2017-18, on va arrêter de jouer quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est-à-dire qu'on va apprendre progressivement la fresque de ces 16 quatuors et la mûrir, ce qui voulait dire qu'on a renoncé à pas mal de projets parallèles et qu'on avait une rampe de lancement à suivre, un rétro-planning si je puis dire, et on ne voulait pas faire ça une deuxième fois dans notre vie. C'est-à-dire que là, on a dédié presque 5 ans de notre vie à ce compositeur. C'est aussi génial soit-il, on pense qu'on n'aura pas l'occasion de refaire un truc pareil. Dorénavant, ça sera plutôt un témoignage qui va se comme c'est le cas de tous nos confrères. Mais on voulait fixer cette grande aventure et l'enregistrer. Et au moment de se demander comment l'enregistrer, on se rend bien compte que, peut-être c'est notre expérience qui veut ça, mais le studio est un domaine un peu dangereux, vous avez toujours ce risque de tomber dans une interprétation qui va paraître éventuellement un peu lyophilisée, voire aseptisée. Souvent les tempos ralentissent souvent sous les micros parce qu'on devient à l'écoute de chaque micro détail, on a une écoute qui est beaucoup plus plastique de ce qu'on fait, et le discours, le flux, l'électricité, ce que je pourrais appeler l'élément théâtral du jeu est parfois complètement éteint. Et ça, on ne peut pas prendre ce risque, pas pour l'intégrale Beethoven. Donc on s'est dit, on va enregistrer en public. Et si on choisit un endroit dans le monde pour enregistrer cette musique, on réduit à un seul emplacement, un seul public, une seule atmosphère, quelque part on se met en travers de ce que lui-même aurait probablement souhaité, je pense, hein. Beethoven avait cette tendance tout à fait visionnaire et parfaitement égocentrique. Il prétendait que sa musique parlerait à tout le monde et très bientôt pour les générations futures, parce que de son temps il était souvent incompris. Quoique pas tant que ça, il y a aussi beaucoup de coquetterie là-dedans. On en pourrait en parler longtemps, mais l'aristocratie viennoise contre qui il aimait bien se rebeller, disons pour maintenir sa posture de défiance, elle était en même temps très 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 consciente qu'elle avait affaire à un immense musicien. Et... mais il est vrai que les musiciens de son temps n'ont pas toujours compris comment jouer cette musique-là, pourquoi elle était... Et puis la surdité a fait le reste. Donc cette universalité revendiquée par Beethoven de sa propre musique, on voulait en fait la mettre à l'épreuve, c'est-à-dire l'apporter partout dans le monde aujourd'hui, sur chaque continent, pour des publics de conditions différentes, et fixer ça dans un film dont j'espère pouvoir vous dire qu'il sortira avant le 1er janvier prochain, mais rien n'est moins sûr, c'est très compliqué. En tout cas, on est parti sur chaque continent pour filmer nos concerts et filmer les rencontres autour de ce projet. Voilà, si je dois résumer, la question de fond, c'était l'universalisme de Beethoven est-il une réussite ? A-t-il réussi son pari de toucher, comme il le voulait, les civilisations futures et les plus éloignées les unes des autres avec cette musique-là qui, effectivement, n'est pas une musique qu'on peut enfermer sous vitrine et dire « voilà un exemple de premier romantisme allemand ». Ça ne tient pas dans cette... C'est pas ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. En 30 ans, il a écrit ses 16 quatuors et en 30 ans, son langage a tellement évolué et l'excellence est telle dès le départ et jusqu'au bout qu'en réalité, on peut vraiment parler d'une ellipse, d'un court-circuit de l'histoire et qu'il a réussi à, je pense, compacter l'héritage. Même on peut remonter jusqu'à la Renaissance avec certains exemples comme le Tanggezang du 15e quatuor par exemple, jusqu'à Bartok, voire Sivreich au 20e siècle, c'est-à-dire des notions de répétition, de travail extrêmement ciselé dans le contrepoint, l'influence du terroir, des cultures, de la musique traditionnelle, un modernisme absolument époustouflant. Donc oui, je crois qu'on peut parler d'un combustible nucléaire dont il a fait un usage incroyable. Et c'est honnêtement, maintenant, bon, tout ça est derrière nous. Le Covid est venu un peu coucher nos espoirs de vivre ça en concert aussi intensément qu'on le vous souhaitait. Mais d'avoir fait le tour du monde et d'avoir fait ces disques, je crois qu'on ne s'est pas trompé. Le jeu en valait la chandelle et c'est ce que diront aussi tous les quartettistes qui ont fait ça avant nous.
Alors, c'est une musique qui peut nourrir éternellement. Enfin, c'est un peu comme les 32 sonates du même Beethoven. C'est-à-dire qu'on peut passer une vie d'auditeur à écouter cette musique. Il n'y a pas une note. On commence avec le premier quatuor qui, en réalité, n'est pas le premier, qui ouvre votre premier disque à Philadelphie, de mémoire. Premier disque où il y a aussi le 14e quatuor. Vous dites l'alpha et l'oméga de cette littérature. Tout est sublime. C'est-à-dire on met le premier disque et du premier à la dernière note du 7e. Il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime. Mais alors, une question un peu bébête, Raphaël Merlin. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais de sa vie écouté un quatuor de Beethoven et qui vous dit par quel quatuor je vais entrer dans cet univers. Pour vous, est-ce que... Moi, à titre personnel, par exemple, c'est le 7e quatuor qui m'a fait entrer dans cet univers. Mais bon, c'est pas tellement intéressant que je parle de moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séduction dans ce 7e quatuor immédiate pour quelqu'un qui n'a jamais écouté cette musique. Et pour vous, qu'est-ce que vous...
Je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Et même alors que maintenant, je les ai quand même tous joués et rejoués et que je commence à y voir clair... Je continue de penser que dans la période médiane, alors je pense à des œuvres comme le concerto pour violon ou le peut-être
le quatrième concerto pour piano,
par exemple, il me semble qu'à cette époque-là, il y a dans le langage de Beethoven cette volonté manifeste d'écarter les murs, d'augmenter l'espace, de toujours se donner plus de liberté, mais en même temps de garder un langage relativement accessible avec, si on résume, des gammes, des arpèges, des choses qui tombent sous le sens, et il arrive à raconter des histoires assez folles avec ces deux dimensions, substance de travail simplissime et dimension de discours tout le temps en augmentation. Donc on se sent pris par la main et emmené en haut d'une montagne sans grand effort. Moi je trouve que c'est ça l'euphorie du langage central, alors que dans la dernière période... Il nous pose des questions beaucoup plus graves, beaucoup plus existentielles. Et là, il faut s'accrocher pour savoir est-ce que c'est du lard ou du cochon. Est-ce que Beethoven pose des questions à la fin pour le plaisir de nous perdre un peu? Je pense qu'il y a beaucoup de provocations chez le bonhomme aussi. Mais non, je suis d'accord avec vous. Le septième, pour moi, c'est le premier mouvement ou le mouvement lent, par exemple, sont des exemples de musique évidente, puissante, fédératrice. est très émouvante en réalité. Le pathos n'est absolument pas tabou là-dedans. Prenez le mouvement lent de celui-là. Déjà, la phrase de départ, c'est une imploration pas possible, mais cet instant de magie surnaturelle qui arrive au milieu du mouvement, un peu après le milieu, en ré bémol majeur, là, on a l'impression. Moi, j'ai toujours l'impression. Souvent, j'en pleure sur scène. J'ai l'impression d'entrer dans une clairière au milieu d'une forêt très très touffue et de trouver tout. De tout y trouver, la paix, la lumière, le calme, et puis en même temps cette richesse, cette vérité, ça c'est éblouissant. Je crois pas que ce soit forcément aussi évident de se retrouver soi-même dans cette musique avec les derniers opus, et je dirais même avec les premiers opus non plus, parce que dans les opus 18 vous avez cette dimension classique très exigeante dans le langage et dans la forme, et il faut voir à travers. Finalement, on voit à travers, mais c'est comme dans les 6 suites pour violoncelle seule de Bach, quelle est la plus connue et la plus simple en apparence, c'est la première, et pourtant c'est pas forcément celle que psychologiquement on appréhende le mieux. On sait toujours pas vraiment ce qu'elle raconte, celle-là.
Alors Raphaël Merlin, ce qui est extraordinaire dans ce voyage que vous racontez d'ailleurs dans le livret qui est fin du disque, alors c'est Philadelphie, Vienne, Tokyo, Sao Paulo, Melbourne, Nairobi et retour à Paris. Alors par exemple, quand vous évoquez Nairobi, vous dites à un moment, je crois que vous jouez le quatrième quatuor et qu'il y a dans le public des gens qui sont amusés par l'humour de cette musique, et à la limite c'est une musique que vous avez jouée énormément et vous redécouvrez en quelque sorte cet humour par l'écoute qu'en ont vos auditeurs, si j'ai bien compris. Donc en fait, il y a une interaction. D'une part, vous faites découvrir à des publics qui ne sont pas forcément habitués à cette musique occidentale, ces quatuors de Beethoven, et en même temps, eux, ils vous apportent leur propre regard inédit, quoi. Cette interaction, elle est assez fascinante.
Tout à fait. Ça, c'est peut-être le moment qu'on retient de toute l'année. Là, vous choisissez l'exemple le plus extrême, puisqu'on était en banlieue de Nairobi, dans un bidonville qui s'appelle Korogosho, qui abrite une sorte d'oasis de musique et de d'éducation. C'est-à-dire que c'est une association qui s'appelle Ghetto Classics, qui s'est posée là avec l'aide d'une paroisse. Mais quand je vous dis paroisse, c'est bien un grand mot. C'est un mur avec quelques tôles autour, et puis oui, il y a un lieu de culte, mais rien à voir avec ce qu'en a fait Elisabeth Ngoroge, qui est l'initiatrice du projet. Elle a décidé de mettre en place un dispositif pour offrir aux gosses du bidonville la possibilité de jouer d'un instrument, d'apprendre à jouer de cet instrument et de venir faire de l'orchestre quotidiennement ici. Et ça, en fait, c'est pas seulement une oasis, c'est carrément un abri. Quand on vit dans un bidonville de 200 000 habitants où la violence et la criminalité sont tellement répandues que... si vous voulez, c'est simple. Ils vivent tous à peu près de la même chose. Ils sont adossés à la plus grande décharge publique de Nairobi. Donc tous les jours, on voit arriver les camions d'ordures de la ville. Et autour de ces camions, il y a évidemment tous les charognards qui cherchent leur pitance. Mais il y a aussi les travailleurs, si je puis dire, qui vont aller trier les déchets et qui vont ramener les morceaux de métal, de plastique, dont 90% seront récupérés par la mafia, et les 10 derniers, c'est ce qui va leur permettre de vivoter, quoi. Ils vont aller les vendre après les avoir nettoyés sur des routes. Ça pue partout, c'est vraiment très choquant pour nous, Européens, d'arriver là-bas, parce que cette odeur de merde, hein, je ne sais pas comment vous dire autrement, c'est tout simplement, les gens vivent dans une gigantesque poubelle, et ils peuvent se faire couper les mains pour avoir pris un morceau de métal qui n'était pas prévu dans la décharge. Alors c'est vraiment, je le raconte comme ça avec distance, avec froideur, mais nous, c'est parce que c'est un peu difficile aussi, on ne peut pas résumer toutes ces questions de pauvreté en deux phrases et demie, et puis c'est pas un domaine dans lequel je suis très, informé, mais d'avoir été témoin de ça, de voir ces enfants qui ont pu, sans frais, en acceptant la seule condition, c'est d'accepter d'être scolarisé. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer d'un instrument et aller à l'orchestre, il faut accepter d'aller à l'école. Ce qui est fou, c'est que l'école est un privilège, mais encore faut-il avoir la possibilité de libérer du temps et il faut que la famille soit OK pour que l'enfant n'aille plus à la décharge, en fait, ou en tout cas plus aussi longtemps. Bref, et les enfants qu'on a vus, qui étaient des ados... c'est pas non plus une extrême pauvreté à tous les niveaux. Ils sont pas tous des crèves la faim. On a aussi on fait toujours des amalgames, nous, depuis les pays développés. Mais en fait, on a mangé avec eux. On a partagé leur repas. Extrêmement pauvre, oui, mais pas mal nourri. une assiette avec des lentilles et du riz et une bouteille d'eau, et en fait nutritivement ça tient. C'est certes, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de médecin du coin. Bref, la musique au milieu de tout ça, je voulais quand même resituer un peu, parce que la musique au milieu de tout ça, elle arrive pas comme un agrément, pas comme un miroir dans lequel on peut regarder et se dire mon existence quotidienne c'est quelque chose, et là j'accède à des émotions, ça me donne du recul peut-être, ça élargit les dimensions de mon existence. Non, là-bas c'est radical. Là-bas ça leur sauve la vie. Ils peuvent jouer du violon et ça change leur existence absolument entièrement. Ils le disent à peu près tous avec leurs mots. Donc si, une fois qu'on a dit ça, le fait d'écouter pour la première fois de leur vie un quatuor professionnel qui vient leur jouer du Beethoven, et pour eux c'est quand même étonnant, parce que nous on a nos 20 ans de quatuor de conservatoire dans les pattes, on a quand même la chance de... Eux ils se débrouillent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de profs vraiment, ils ont des Skype lessons avec des profs d'Allemagne une fois par semaine s'ils ont de la chance. Ils doivent s'appuyer, mais ils n'ont pas vraiment d'exemples à suivre, ils doivent inventer beaucoup. La lecture de la musique c'est quelque chose, ils ont des enseignants bien sûr, mais c'est un niveau très rudimentaire. Ce qui était fascinant, c'est que l'énergie déployée, nous en France, on ne serait pas capable d'un centième de cette énergie, et la disponibilité aussi. Et effectivement, le forte subito dans le final du 18-4, qui est un rondo sonate, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais ce forte subito, quand le refrain revient pour la troisième fois, c'est un effet d'opéra bouffe. C'est-à-dire, d'un coup, sur la dernière mesure de la carrure, c'est bam bam bam, au lieu de simplement une ponctuation galante de style classique. Et ça, ils l'ont tout de suite compris. Ça les a fait rigoler tout de suite. Et nous, on s'en est donné à cœur joie. On se sentait portés comme des joueurs de foot dans un stade, encouragés par... On les a fait d'autant plus, ces fortissimo. Mais je pense vraiment que devant un public aguerri, on n'aurait pas théâtralisé autant. On n'aurait pas osé. Alors que c'est tout ce qu'on demande, nous. Il faut faire notre métier et l'incarner au maximum. Mais l'imagination n'est pas toujours là. Et là, ils nous ont donné de l'espace pour notre imagination. Et là, on s'est dit, OK, il y a une grande leçon à tirer de tout ça. C'est que le niveau d'éducation et de connaissance, évidemment, détermine, augmente les chances de passer de pas rater le message. Mais parfois, ça peut aussi créer un écran qui est tellement dommageable. On était passé à côté de quelque chose. C'est pas le message le plus subtil de Beethoven, ce fortissimo subito, loin de là. Mais l'effet comique et l'effet théâtral, ils l'ont parfaitement compris. Donc, peut-être dans cette innocence, il y a quelque chose qui est plus proche d'une forme de vérité. Ouais.
Raphaël Merlin, on va s'éloigner un temps de Beethoven, de Nairobi. Moi, il y a un souvenir que j'ai de votre quatuor, je sais si je vous ai entendu en concert, et ça m'a, je resterai marqué par ça à vie, c'est pour les 90 ans de Menachem Pressler à la salle Pleyel. Vous aviez joué avec lui et à un moment vous avez joué pour lui le mouvement lent du quatuor de Debussy, et je l'ai regardé, vous regardez, vous écoutez, et tous entre vous qu'on écoutait et lui qui vous regardait et vous écoutait, il y avait quelque chose de fascinant. Est-ce que justement vous sentez les héritiers de personnes comme ça, parce que par définition le quatuor c'est quand même la filiation, là on parlait de Nairobi justement, là vous passez pour les représentants d'une certaine école, d'une certaine musique, d'un Occident et d'un achèvement musical, d'un sommet musical occidental, mais en même temps vous êtes les héritiers de toutes ces personnalités, les Pressler, enfin lui c'était le trio, mais de tous ces gens, vous avez une impression d'appartenance comme ça
Oui. Alors l'exemple de Menachem c'est un exemple quand même un peu à part, parce que ça n'a jamais vraiment été notre professeur, ni notre... Il a jamais fait de quatuor lui-même. C'est-à-dire qu'il a jamais été une référence de notre métier, mais si on dézoome un petit peu, en tant que pilier d'une des plus grandes formations de musique de chambre de l'histoire, là c'est un exemple à suivre de ténacité, d'acharnement et de simplement d'amour pour la musique. Et le partage de la scène avec lui, moi, ça m'a appris énormément, parce que j'ai eu l'impression qu'alors que ses moyens techniques et pianistiques étaient clairement en train de diminuer, j'ai eu l'impression que l'intelligence palliait à tout ça, et que finalement, quand on ose dire, alors que Dieu sait de qui on parle, quand on ose dire, oui, bon, Pressler, Bon, il n'y a pas toutes les notes, ou alors il ralentit le tempo et tout ça. Certes. Mais il n'y a pas toutes les notes, mais il y a les notes. Pourtant, elles y sont toutes. C'est-à-dire que là où l'intelligence du bonhomme est totalement subjugante, c'est que on voit qu'en fait, elles y sont toutes. Il appuie là où il y a besoin. Et il exprime comme en négatif ce qu'il ne joue pas. C'est-à-dire qu'il joue sur la mémoire et sur l'imagination de l'auditeur. Et là, je trouve ça absolument... Moi, j'ai l'impression d'une leçon de sagesse comme vous pouvez voir ça dans La Guerre des Étoiles ou dans Kung Fu Panda. Hein. C'est pas désolé, c'est pas des références forcément très, très
philosophiques. Mais l'image va bien.
Mais voilà.
Yoda, Pressler.
Exactement. C'est le maître Yoda de la musique de chambre. Exactement. Et là, ça nous a fait quelque chose d'assez inoubliable et irremplaçable. Alors, on a eu la chance de rencontrer des seniors quand même.
Valentin Erben.
Oui. Valentin Erben, pour moi, c'est un jeune par rapport à Pressler. C'est même un jeune par rapport à beaucoup de gens. Parce que...
Je le dis, c'est le violoncelliste du Quatuor Berg, je le dis pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément.
Oui, 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 c'est vrai qu'il commence à avoir un certain âge, mais ça reste un...
mais je parlais au niveau du maître.
Oui, c'est un maître, absolument. On a eu la chance de travailler avec Gyorgy Kurtag, on a travaillé avec des gens un peu plus jeunes quand même. Mais par exemple, on a eu une seule leçon avec Alfred Brendel. Une seule. Et cette leçon-là, on en parle encore. C'était il y a 10 ans.
Et lui non plus, c'est pas un quartettiste, c'est
non,
un grand
pianiste. Non plus, c'est pas un quartettiste. Mais cette leçon qu'il nous a donnée, ça nous a mis sur un biais d'écoute dont on ne s'est jamais privé ensuite, parce que il a réussi... par la différence, en se positionnant lui comme pianiste, il a dit, vous avec votre archet, vous avez le droit, c'est-à-dire la possibilité, de faire quelque chose que nous, on ne peut même pas tenter de faire, donc vous en avez aussi le devoir. C'est-à-dire que c'est votre mission, chanter l'entre-note, c'est-à-dire dirigez-vous vous-même, anticipez l'événement, annoncez l'événement. N'ayez pas peur, ne jouez pas ne jouez pas verticalement, rien du tout. Et pourquoi ? Parce que le pianiste, par définition, doit compenser en permanence l'absence d'entretien du son. Une fois que le marteau a tapé, il a tapé. Et oui, ces figures-là sont des figures inspirantes et tutélaires pour nous. Ça nous a définitivement marqué. Je pense qu'on est des héritiers, tout à fait, des gens qu'on a eu la chance de croiser. Et je prétends aussi que l'intérêt de notre groupe repose sur cet antagonisme, c'est-à-dire que le Kurtag étant le meilleur exemple, ce sont des maîtres, mais on a quand même toujours une fibre rebelle qui continue de s'exprimer encore maintenant. Et cette résistance à la transmission, Dieu sait qu'on y croit à la transmission, nous-mêmes on transmet beaucoup. C'est-à-dire on enseigne régulièrement le plus possible, mais la remise en cause du dogme ou en tout cas de l'enseignement, ça pour moi en fait même partie. Et l'exemple qui chez nous est un exemple absolument central, c'est le professeur avec lequel on a le plus travaillé, qui s'appelle Eberhard Fels, qui est en quelque sorte notre mentor, qui est professeur à la Hochschule Eisler à Berlin. Qui doit avoir 83 ans maintenant, je crois, 84 peut-être. Et il a réussi à nous mettre en face de nos propres fragilités de manière qu'on pourrait presque qualifier de malhonnête. C'est-à-dire qu'il nous dit A et parce qu'on avait fait B, et une fois qu'on fait A, il dit « Mais pas du tout, il fallait faire B, comme je vous ai dit. » C'est-à-dire que c'était ce genre de jeu pervers avec la résistance nerveuse de l'élève. Et vous savez, ça c'est un peu initiatique, mais en même temps je crois qu'il y a du vrai là-dedans. C'est que l'artiste in fine, peu importe ce qu'il raconte, mais l'intensité de la conviction avec laquelle il le raconte donne toute la valeur à l'objet raconté, comme pour un comédien. Là-dessus, oui, on n'est pas seulement des témoins d'un savoir qu'on nous a transmis, on est aussi des éléments vibrants. Et ces personnes-là nous ont mis en vibration. Ça nous échappe.
Alors Raphaël Merlin, ces quatuors, tout est sublime, mais il y a quand même du sublime dans le sublime, c'est-à-dire les perles de la couronne. Enfin, je pense à la cavatine du 13e quatuor, ou le mouvement lent du 16e, ou du 9e, ou le dernier mouvement du 15e quatuor. Tous ces sommets émotionnels des quatuors, est-ce qu'on les aborde différemment du reste, justement, ou alors c'est partie intégrante quand on les interprète ?
Non, c'est sûr, il y a une différence. Par exemple, par opposition, le deuxième mouvement de l'opus 132 du 15e ça, c'est très problématique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi ça tourne en rond comme ça en permanence? Est-ce que c'est du jeu? Est-ce que c'est de la réflexion mise en musique? Est-ce que c'est du... Est-ce qu'il y a une notion de envoûtement, de transe qui est recherchée, comme dans la musique répétitive, justement? La brièveté des phrases, ou alors la sempiternelle répétition des motifs. Ça, chez Beethoven, c'est quand même toujours en question. Il y a une obstination. Moi, je pense que s'il fallait résumer Beethoven en un seul mot, ça serait probablement le mot de volonté, ou en tout cas de velléité. Mais je crois que tout simplement, c'est la volonté, ouais. Et la volonté de Kant, hein, la volonté bonne, pareil. Effectivement, quand on touche à un mouvement, comme vous dites, sublime, dans lequel on a vraiment l'impression que ce mouvement à lui tout seul justifie l'écriture d'une œuvre tout autour. Alors là, il y a quelque chose qui est peut-être plus facile du point de vue esthétique, parce qu'on se laisse, on fait confiance, on se laisse entraîner par en quoi cette musique-là nous fait vibrer, nous interpelle, nous touche, nous émeut. Alors que celle dans laquelle on est un peu perdu, on a l'impression qu'on a le devoir de nous-mêmes nous mettre à la hauteur et d'apporter quelque chose à cette musique-là pour lui donner, pour lui donner un passeport, qu'elle puisse traverser la frontière jusqu'au public, jusqu'aux oreilles du... Oui, oui, donc c'est différent. Il m'arrive même, de manière très pédante, mais j'assume, de dire que parfois, quand un compositeur n'a pas utilisé la formule la plus heureuse ou que ce n'est pas le mouvement le plus réussi, que, bah, du coup, qu'on va essayer de lui sauver un peu les fesses, quoi. Et chez Beethoven, je dirais, ça, a priori, on peut dire que ça n'arrive jamais, parce qu'il y a quand même un niveau d'excellence fabuleusissime. Mais soyons honnêtes, chez Beethoven aussi, il y a des choses qui sont moins heureuses, qui sont peut-être un peu moins travaillées. Vous savez que c'était un acharné de travail, on le voit sur ses esquisses, sur ses cahiers. Et il nous arrive de trouver que un renversement qui dure un peu longtemps. Là, il cherche une transition, mais il n'a pas trouvé mieux, peut-être. Et puis on s'imagine comment il aurait pu faire autrement. Et puis on tourne un peu le truc. Alors Dieu sait qu'on n'est pas tous des compositeurs nous-mêmes, mais peu importe, parce qu'on a quand même joué beaucoup de répertoires de viennois. On a joué Schubert, on a joué Schumann, Mendelssohn, Brahms ou Haydn et Mozart. Donc il est exactement au milieu de tout ça. Et on voit d'ailleurs à quel point sa musique irrigue directement ses successeurs, avec parfois des décennies d'écart. Mais
Vous pensez à Bartok alors?
Pas seulement, non, mais même on retrouve Wagner et Richard Strauss dans certaines choses. Par exemple, le Mouvement Lent opus 59 numéro 2, pour moi, c'est une sorte de...
Le huitième, donc.
Oui, pour moi, c'est une sorte de condensé du Chevalier à la Rose. Alors attention, pour une raison bien particulière, c'est la cadence telle qu'elle est écrite à la fin de la première phrase, avec un motif, une double broderie reprise à la sixte. Enfin, ça, c'est extrêmement technique, mais si on l'entend, si on l'écoute et qu'on l'entend et qu'on met en même temps... À la suite, on met le trio du final du Chevalier à la Rose. C'est tout simple, c'est la même chose et c'est pas très compliqué. Mais oui, je pense qu'il a vraiment déterminé une immense partie de la musique occidentale après lui.
Il a intimidé aussi d'ailleurs,
parce que
vous dites, vous rappelez que vous avez donné parfois ces quatuors en certains lieux avec l'unique quatuor de Fauré. Et quand on pense que des compositeurs aussi géniaux que Fauré, Ravel ou Debussy n'ont composé qu'un quatuor, on peut penser aussi que c'est le modèle beethovenien.
Certainement parce que Beethoven a placé la barre trop haut pour tout le monde. Aussi parce que le langage a évolué dans l'intervalle et que ça n'a pas tardé. Hein. Je crois que dès la fin du post-romantisme, ou ce virage de 1900 qui est un virage des pluriels, les écoles nationales, le dodécaphonisme, donc la rupture de langage, à ce moment-là, l'œuvre perd sa notion de fonction alimentaire qu'elle avait. Par exemple, on cite toujours les cantates de Bach, une tous les dimanches, parce qu'il faut manger. Et puis parce que Bach lui-même ne pouvait pas imaginer qu'on allait les rejouer plus tard. Et puis on peut dire, oui, selon ce principe-là, il est possible que peut-être certaines œuvres de Beethoven, Beethoven lui-même se soit dit, bon, j'écris ça parce qu'il faut que je touche mes 15 ducats, donc je mets 6 quatuors dans le cahier, il y en a 5 qui disparaîtront, peut-être la postérité en gardera un. Parce qu'il était certes prétentieux, mais qu'il avait peut-être pas compris à quel point ça allait rester. Comment imaginer, à l'époque, que l'humanité allait se multiplier par au moins 7 ou 8, puisque en population, j'entends, mais aussi qu'elle allait développer des moyens de communication comme ce qu'il y a aujourd'hui. Et comment auraient-ils pu penser que leur musique toucherait justement tous les continents, comme ça a été le cas dans cette expérience? Donc les opus, les œuvres n'ont pas toutes le même poids, mais enfin, en tout cas, chez Beethoven, et c'est donc la réponse à la question, même quand on croit qu'il a été un peu léger sur quelque chose, on retourne le problème et on se dit non, en fait, c'était quand même la meilleure solution, la moins mauvaise solution.
Oui, puis ça rend humain quand même ce génie aussi.
Oui, et ça, ce qui le rend encore plus humain, c'est de consulter les cahiers d'esquisses. On est allé à la Beethoven House à Bonn. On a eu la chance d'être pris par la main par la conservatrice là-bas qui nous a fait entrer dans un bunker où il y a des cahiers d'esquisses et des manuscrits et des partitions originales. Et c'est extraordinaire d'avoir le même papier, la même encre que celle qui a été touchée par lui et de voir comment il travaillait, quoi. Travaillait avec beaucoup, beaucoup de corrections. Il se corrigeait lui-même beaucoup, énormément. C'est une énergie de travail pareille. Et puis la qualité littéraire aussi, les lettres. Enfin, aujourd'hui, on envoie des textos en abrégé. Et tout ça étant... On est probablement dans un virage anthropologique majeur. Mais à peine, même pas deux siècles en arrière, on avait cette réunion d'intelligence en une seule personne. Qui force l'humilité, je pense. Aujourd'hui, quel compositeur disparaît à 35 ans, comme c'est le cas de Mozart, en ayant livré l'once de l'ombre de le dernier poil de la substance pour la postérité? C'est quand même très étonnant. Ça rejoint des questions très très générales, mais est-ce qu'on est au bout d'un rouleau? Est-ce qu'on est en fin de civilisation? Je ne saurais pas répondre à ça, cette question. Mais en tout cas, nous qui avons cette mission étrange dans notre métier de mettre les mains toujours dans ce témoignage du passé, ce qui n'empêche pas qu'on aime et qu'on croit en la création. Ça
oui,
n'a rien
avez
à
fait
voir.
Beaucoup de création.
Mais quand on parle d'obsolescence programmée pour un appareil électroménager, quand on parle d'une encre qui n'est plus indélébile, on ne sait plus fabriquer une encre qui pourra tenir des siècles et des siècles comme c'était le cas, et ben il faut bien reconnaître que ce n'est pas seulement des objets, c'est aussi une pensée très très forte qui a pu traverser les... Alors, et Beethoven, pour finir, son message évolue, ça c'est fou. La musique est la même, mais nous qui traversons les âges, chacun sa petite expérience de ce côté-là, on est forcé d'admettre que si on écoute les versions, les interprétations de cette musique de la moitié du XXe siècle, ou même des années 70, ou même des années 90, on se rend compte que la musique de Beethoven continue de changer. C'est-à-dire que les révolutions d'interprétation sont telles que maintenant, on lui enlève de l'épaisseur, progressivement, avec ce qu'on appelle le courant baroque ou historiquement informé, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, on est en train de se rendre compte que la substance première de la musique de Beethoven, avant tout autre paramètre, c'est sa force rythmique. Quelle incroyable intelligence rythmique on trouve là-dedans. Ça, c'est à la fois imprévisible, choquant, et pourtant organique. Et je pense que si vous prenez quelqu'un qui, que c'est pas par hasard, hein, quelqu'un qui serait éventuellement un peu sourd, qui aurait des problèmes d'oreille, et à qui vous proposez dans la même soirée d'écouter un peu de Beethoven, un peu de Hummel et un peu de Ferdinand Ries, ça va faire une sorte de soupe sonore très similaire chez les trois, mais la grande différence, c'est que les impulsions rythmiques, donc la périodicité du discours, sera infiniment plus intelligente chez Beethoven.
Alors, Raphaël Merlin, merci pour ces propos en rapport avec cette intégrale qui vient de paraître pour le label Warner des Quatuors de Beethoven. Vous êtes au sein du Quatuor Ebène, bien sûr, aux côtés de Pierre Colombet, Gabriel Le Magadur, Marie Chilem. Juste un mot pour finir, puisque vous serez en concert à la Cité de la Musique pour donner cette intégrale. Donc, retour au concert. Ça a été compliqué de concevoir l'ordre des Quatuors, la manière dont vous allez les jouer pour chaque concert?
Non, en réalité pas tant que ça, parce que il y a énormément de possibilités. Les conditions qu'il faut toujours respecter, c'est proposer un concert qui soit entre guillemets équilibré, c'est-à-dire vous invitez pas quelqu'un à dîner chez vous pour lui servir
deux plats de viande
ou quatre desserts d'affilée, voilà.
Ah, moi ça me gênerait pas. Non, c'est une parenthèse.
Mais autrement, on se rend compte qu'il est tout à fait possible d'avoir une soirée avec que des Beethoven tardifs ou même une soirée avec que des opus 18. Ça tient la route. C'est vrai que on a essayé quand même de répartir un petit peu les choses. Il faut aussi qu'il y ait une charge dramatique qui fasse sens. On peut pas passer, c'est pas des soirées à thème, on va pas dire ce soir soirée Beethoven que du pathétique et demain que du Giocoso, ça marche pas. Mais sa musique est suffisamment riche pour que... Non, il n'y a pas vraiment de danger. À vrai dire, on a été aussi obligé de s'accommoder de nos propres paramètres de préparation. Il fallait que tout ça s'enchaîne pas trop mal parce que c'est assez éreintant de maintenir les 16 quatuors dans les doigts, si je puis dire. Quoique en fin d'année, probablement, ça sera le cas. On sera peut-être un peu en surchauffe, mais pour les disques, il fallait aussi observer les contraintes de minutage. Donc on n'a pas du tout procédé de manière chronologique et c'est tant mieux. D'avoir à la fois un contact avec le Beethoven premier, le Beethoven tardif, ça nous permettait d'avoir aussi une certaine diversité de vues et de jamais tomber dans une routine ou un système. Donc non, là-dessus, c'est assez facile. La grande difficulté, c'est de jouer cette musique aussi bien qu'elle le mérite. Et là-dessus, c'est ce que disait Brian Eno dans le film de George Lizer. La principale raison de faire ce métier, c'est d'essayer de essayer. Il disait bien d'essayer de bien jouer les derniers opus de Beethoven. C'est pas si facile.
Bah moi, je peux vous dire que vous y êtes parvenu parce que ces disques procurent. Il y a un critère, à mon sens, ils procurent le bonheur qu'on attend de cette musique quand on l'entend. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous.
Pour illustrer cet entretien avec le violoncelliste Raphaël Merlin, violoncelliste du quatuor Eben, je vous propose d'écouter ce quatuor interpréter les deux premiers mouvements du 7e quatuor à cordes de Beethoven. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you. Thank you.